Ce soir, on refait le monde. Alain Desmarais sur Radio Armada pour une chronique hebdomadaire consacrée à l'état du monde et aux luttes de libération des peuples. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous profitez d'une part de liberté retrouvée après cette période de confinement. Mais attention, continuons à rester prudents, hein, ne relâchons pas notre vigilance. Alors, pour ce qui nous concerne, c'est toujours dans le format confiné que je vous retrouve pour une chronique consacrée aux enjeux internationaux, dont la crise actuelle nous démontre encore une fois que dans un monde totalement interdépendant, y compris et en particulier au plan sanitaire, la coopération, la solidarité à l'échelle du globe sont plus nécessaires que jamais. Afin d'évoquer le bilan de la situation en Europe au sortir du confinement, ce soir, nous allons aborder ce thème, l'Europe d'après, l'austérité comme avant, point d'interrogation. Et j'ai invité pour cela le vice-président du Parti de la gauche européenne, le PGE, qui est par ailleurs sénateur et ancien directeur de l'Humanité et dirigeant national du PCF. Bonsoir Pierre Laurent.
Bonsoir.
C'est avec un très grand plaisir que nous vous accueillons sur l'antenne de Radio Armada. Vous allez bien pour après cette période de confinement ?
Oui, très bien. Et puis, on est heureux de recommencer à profiter des terrasses. J'ai été boire mon premier coup dans une terrasse parisienne cet après-midi. Ça fait plaisir.
Ah bah super. Bien, on va pas trop traîner parce qu'on est limité par le temps et on va donc tout de suite aborder le thème de ce soir. On va donc évoquer ensemble la situation en Europe. 3 mois après le début de la crise du coronavirus et 2 mois et demi après le début du confinement. Cette crise sanitaire majeure et destructrice a été le révélateur de dysfonctionnements et ainsi de graves responsabilités se font jour sur les relations mondiales basées sur le néolibéralisme. Ainsi, on a, dans cette émission, examiné la situation de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, de la place et du poids de la Chine dans les rapports internationaux actuels, de la perte de leadership des États-Unis, et ce soir, nous allons donc évoquer les conséquences de la crise sanitaire en Europe et de quoi cette crise a été le révélateur pour l'Union européenne. Les pays les plus touchés par les conséquences du virus en Europe se sont retrouvés isolés, livrés à eux-mêmes, et quasiment partout, le constat de la destruction des services publics de santé a été fait et pointé du doigt. Va-t-on vers une modification en profondeur des choix économiques de l'Union européenne ? Ou alors, la limitation de la dépense publique et les politiques d'austérité vont-elles se poursuivre le jour d'après comme le jour d'avant ? Emmanuel Macron et Angela Merkel ont fait la proposition d'une solidarité budgétaire en direction des pays les plus touchés par la crise, à hauteur de 500 milliards. Est-ce à dire que c'en serait pour autant fini de l'austérité que l'on fait amèrement payer aux pays du Sud, les moins riches, Grèce, Espagne, Portugal, Italie ? L'Europe apparaît d'autre part sacrément à la traîne dans le champ de la recherche médicale, au moment où l'urgence de la nécessité d'un vaccin pour protéger les peuples contre le Covid-19 apparaît vitale. Au lieu de cela, Sanofi a scandalisé le monde en donnant la faveur de ses recherches aux plus offrants. Alors, comment aller vers une Europe solidaire ? Comment imposer un autre modèle économique ? Nous allons maintenant en débattre avec Pierre Laurent, notre invité. Première question, Pierre-Laurent, cette absence de coordination à l'échelle européenne face à la crise, les pays les plus touchés, on l'a vu, se sont un petit peu trouvés seuls. Est-ce que ce n'est pas le révélateur de l'échec du modèle néolibéral, de la limitation de la dépense publique, de la casse des services publics ? Et quelles propositions la gauche européenne fait sur ces enjeux de santé publique ?
C'est évident que la crise a révélé une chose, c'est que l'Europe libérale qui a été construite depuis des années avec les traités européens n'est pas une Europe de la solidarité. On l'a vu dès le début, la, l'incapacité des pays européens à réagir dans la solidarité malgré les instances européennes existantes qui avaient même du mal à tout simplement se réunir au début de la crise. Donc c'est une Europe qui a été faite pour le marché, pour l'argent, pas pour la solidarité et l'humain. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que la situation a mis à nu le fait que dans toute une série de pays européens, les systèmes de santé publique avaient été mis à nu, mis à mal par les politiques d'austérité. En Italie, en Espagne, en France, en Belgique, l'austérité nous a coûté probablement des milliers de vies humaines et a conduit aussi des milliers de personnels soignants à être frappés par la maladie parce qu'ils ont été obligés de se jeter dans la bataille sans toujours avoir les moyens de protection nécessaires, au point qu'on a vu les pays européens, pendant toutes les premières semaines de la crise, se mener entre eux la guerre des masques. Ouais. Les autorités européennes se volaient des stocks de masques sur les tarmacs européens, les détournaient parce qu'il n'y avait pas assez de masques pour tout le monde. Et tout ça, évidemment, montrait les limites de cette Europe. Face à ça, je pense qu'un des enjeux maintenant, effectivement, de mettre en avant des exigences de solidarité fortes, et notamment, à commencer par le domaine de la santé publique, une des propositions que vient de mettre sur la table le Parti de la gauche européenne est d'utiliser l'argent qui est maintenant débloqué en Europe, notamment à créer un fonds européen dédié aux services de santé publique, aux questions de santé en Europe, de manière à ce que l'argent qui, semble-t-il, n'existait pas, mais qui a subitement été déversé sur les marchés européens, ne servent pas à faire repartir la machine comme elle était, mais servent à financer les services publics, à commencer par ceux de la santé.
Oui, oui, oui. Alors, ça veut dire, ce fonds-là, comment, très concrètement, comment il pourrait se mettre en place et comment surtout on peut essayer de l'imposer? Parce que c'est toute la question.
Bah, maintenant, les robinets sont ouverts. On nous disait avant la crise ouais. qu'il n'y avait pas d'argent à débloquer, ouais. que c'était impossible, que la dette empêchait tout ça. Bon, là, les robinets ont été ouverts par la Banque Centrale Européenne, par les budgets européens. Il faut donc obtenir que l'utilisation de cet argent soit fléchée, non pas vers la machine économique telle qu'elle fonctionnait avant, mais vers des destinations nouvelles. Et notamment les services publics. Donc, il faudrait créer un fonds où l'argent soit directement dédié aux services de santé publique. C'est possible, mais évidemment, ça demande une bataille parce que ça n'est pas du tout ce qui est prévu pour le moment. Mais c'est une bataille qu'on peut mener au plan européen et au plan français. Par exemple, le plan de relance qui est annoncé, on va peut-être en reparler, prévoit que 40 milliards à peu près aboutissent à la France, eh bien on devrait exiger qu'il y ait un suivi de cet argent pour qu'on sache où cet argent va, et il devrait notamment être dédié aux besoins de l'hôpital, mais aussi de l'école et d'autres services publics.
Ça pourrait par exemple rentrer dans le cadre du Ségur, du fameux Ségur de la santé.
Absolument, absolument. Il pourrait y avoir une instance démocratique, avec des salariés, avec des syndicalistes, avec des parlementaires qui contrôlent où va aller l'argent européen dans la prochaine période.
Alors, on va poursuivre notre débat, mais on a une petite tradition dans notre émission, c'est de faire une pause musicale. Donc, je vais vous proposer tout de suite de prendre ce moment. Et c'est vous qui avez fait un choix, Pierre-Laurent, donc quel est-il?
C'est une chanson d'Alain Leprès que j'aime beaucoup parce qu'elle parle de la richesse humaine, en fait, à côté de laquelle on risque en permanence de passer, notamment chez les enfants. Et je trouve que dans cette période-là, bah, parler des humains, de la richesse humaine et de penser que c'est une priorité pour l'action collective et individuelle, voilà, c'est important d'avoir ça en tête. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette belle chanson d'Alain Leprès qui s'appelle « C'est peut-être ».
Et qui est, comme vous le dites, totalement d'actualité, avec tous ces enfants qui n'ont pas pu rester scolarisés dans cette période de confinement où ils n'avaient pas accès au numérique.
Absolument, absolument.
Alors, on écoute notre ami Alain Leprest, que nous regrettons tous énormément.
c'est peut-être Mozart. Le gosse qui tambourine des deux poings sur le bazar, des batteries de cuisine, jamais on le saura. L'autocar du collège passe pas par opéra, râpé pour le solfège. C'est peut-être Colette, la gamine penchée, qui recompte en cachette le fruit de ses péchés. Jamais on le saura. Elle aura avant l'heure un torchon dans les bras pour se torcher le cœur. C'est peut-être Grand Jacques, le petit au rire bête, qui pousse dans la flaque sa boîte d'allumettes. Jamais on le saura. La famille est maçon, râpé Bora Bora, un mur sur l'horizon. C'est peut-être Van Gogh, le petit qui grave des selles sur la porte des Gogues avec son opinel. Jamais on le saura. Rappelez les tubes de bleu, il fera ses choix dans l'épicerie de ses vieux. C'est peut-être Cerdan, le môme devant l'école, qui recolle ses dents à coups de lampidol. Jamais on le saura. Chaos pour ses 20 piges dans le ring de ses draps, en serrant son vertige. C'est peut-être Jésus, le monde de la Tour d'œuf, qu'a volé au Parisu un gros œuf.
Merci pour ce choix, Pierre-Laurent. C'est toujours une grande émotion hein, quand on entend la voix d'Alain Leprest, et puis surtout avec un texte comme ça.
Ouais, alors, ça rappelle beaucoup de belles choses.
Oui, oui, oui. Alors, on retourne sur nos questions européennes. Donc, Macron et Merkel ont présenté un plan de solidarité budgétaire de 500 milliards en faveur des pays les plus touchés. Est-ce que c'est un virage pour l'Union européenne qui était jusqu'à présent, qui imposait ses politiques d'austérité aux pays les plus pauvres? Et est-ce que cela remet en cause ou comment ça va s'articuler avec le pacte de stabilité et de croissance hein, qui impose l'austérité?
Non, je crois que dans ce plan, il n'y a pas de virage. Bon, il y a un aveu, un aveu, c'est que les limites imposées aux dépenses publiques en Europe ne permettent pas de répondre aux besoins humains. Et ces limites, elles ont explosé avec la crise du Covid-19, donc qui devenait totalement impossible de rester complètement dans les carcans qui avaient été fixés précédemment. Mais en même temps, malheureusement, ça n'est pas un virage. Parce que d'abord, il faut dire, même si l'effet d'annonce paraît énorme, 500 milliards, que c'est beaucoup moins que ce que demande le Parlement européen, qui a estimé à 2000 milliards les sommes qu'il fallait dépenser. C'est à peu près ce que Trump vient, lui, de débloquer pour soutenir la machine économique américaine. Donc 2000 milliards, et il y a beaucoup, même le commissaire européen français Thierry Breton avait lui aussi parlé de cette somme-là. Donc on est en fait très très loin de l'ambition nécessaire, d'une part, et d'autre part, ce qui ne change pas, contrairement à ce qui nous est dit, c'est les critères d'utilisation de cet argent. Et les critères de remboursement, parce qu'une partie de cet argent, ça va être des prêts, du remboursement de ces prêts par les États vont rester les mêmes que précédemment. Alors, provisoirement, ils disent que ça sera remboursé plus tard, pas tout de suite, etc. Mais l'épée de Damoclès de la dette, non seulement ne va pas disparaître, mais va même, d'une certaine manière, être renforcée. Donc, en vérité, il n'y a pas ni l'ambition nécessaire, ni les changements de critères nécessaires. En plus, il faut ajouter que pour le moment, on en est à un effet d'annonce, parce que ce plan, en vérité, n'est pas mis en œuvre aujourd'hui. Commence une négociation sur la base de cette proposition, et on sait qu'une partie des États européens qui ne veulent absolument pas jouer la carte de la solidarité sont déjà décidés à obtenir moins que ce qui est proposé. Donc, il y a une grande bataille devant nous pour obtenir plus de solidarité et surtout, comme je le disais tout à l'heure, que cet argent aille vers des nouvelles destinations, les services publics, la santé, l'école, mais aussi les besoins d'une nouvelle industrialisation en Europe qui tienne compte des enjeux écologiques et qui nous évite d'aller acheter, comme on l'a vu avec les masques, des productions à l'autre bout de la planète en nous mettant dans une situation d'absence de souveraineté de sanitaire, alimentaire ou dans d'autres domaines. Donc, il y a des besoins énormes et on est loin de les satisfaire avec ce plan.
À quel moment sera prise la décision et à quel endroit ? C'est le Parlement qui décidera ?
Non, la première négociation va avoir lieu fin juin, vers le 20 juin, 22 juin, au sommet européen des chefs d'État. Il va y avoir une première phase de négociation. D'ores et déjà, on nous dit qu'il n'y aura pas d'accord lors de ce sommet. Donc, la négociation va continuer à durer pendant l'été. Donc, on peut se retrouver dans une situation où la décision ne sera pas prise avant le début de l'automne. Oui, d'accord. Et c'est un des problèmes du fonctionnement européen actuel, qui est en vérité très bureaucratique, très peu démocratique, et où la guerre des économies capitalistes en Europe et des États capitalistes fait rage et passe avant les besoins de solidarité, même les plus urgents.
Alors, je ne vous ai pas posé la question tout au début. Le parti de la gauche européenne et sa représentation au sein de l'Assemblée européenne, c'est quoi et comment il est composé?
Au Parlement européen, aujourd'hui, c'est une quarantaine, un peu plus, 45
députés. Les auditeurs ne savent pas forcément. Hein, donc,
Oui, bien sûr. Ouais. C'est 45 députés européens.
Pour combien qui viennent... Combien il y a de Pardon députés européens au total?
Sur plus de 700. Hein, donc, ce n'est pas, pas un des groupes les plus puissants du Parlement européen. Mais c'est un groupe qui représente des partis qui sont importants au Portugal, en Espagne, en France, en Grèce, en Belgique maintenant, en Irlande. Donc il y a des forces démocratiques qui sont là rassemblées et qui jouent un rôle important dans les débats européens.
D'accord. Et donc là, on est un peu, comment dire, tributaire de ce que décideront les chefs d'État, quoi. Hein, de, parce que...
bah, si on les laisse faire, oui. On les laisse faire, mais si on met dans la lumière ce qui est en train de se passer, on peut obtenir des décisions différentes. Par exemple, il y a quelques années, le fonds d'aide aux plus démunis avait été menacé de disparition. C'est un fonds très important avec lequel les associations humanitaires peuvent faire des distributions alimentaires dans notre pays. Il avait été menacé, on l'a sauvé par l'action, mais aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de sauver ce fonds, il faut l'augmenter de manière considérable avec les conséquences de la crise du Covid. Donc, par exemple, c'est une bataille qui peut être relancée pour dire, dans l'argent qu'on met sur la table en Europe, il faut qu'une part significative de cet argent aille à ces associations humanitaires. On peut mener la bataille aussi sur l'utilisation de l'argent en France, parce qu'on voit par exemple qu'un plan d'aide pour Renault, dont on parle en ce moment, a dû obtenir le feu vert de l'Europe. Ça veut dire que l'Europe a donné son feu vert, et le gouvernement français lui aussi, alors même qu'on n'avait pas obtenu les contreparties en matière de conservation de l'emploi, de protection de l'emploi par Renault. Donc les critères d'utilisation de ces fonds sont importants, mais il faut en faire des batailles publiques pour que les citoyens soient informés, ce que malheureusement ils ne savent pas toujours.
Alors, justement, quelle bataille le parti de la gauche européenne mène? Alors, j'imagine chaque parti dans son pays, mais est-ce qu'il est prévu d'avoir des déroulements communs ou des
il y a deux, il y a deux, communes? Il y a deux axes d'action très, très importants. Bon, je l'ai dit à propos de la santé, mais d'une manière plus générale, la question des services publics, parce qu'elle se pose dans toute l'Europe. Les services publics ont été saignés à blanc un peu partout par les plans d'austérité. Il faut aujourd'hui les reconstruire. Il y a la question de la santé, mais il y a par exemple la question de l'éducation, parce que la situation qu'on connaît en France, c'est une situation qu'on connaît dans d'autres pays européens. Si on veut réussir la rentrée scolaire de septembre et pas, comme vient de se passer, la mini-rentrée très ratée du 11 mai, il va falloir plus de profs, plus de moyens, il va falloir aménager des locaux. Donc, on devrait dédier une partie des fonds européens à l'éducation. Donc, les services publics. Et puis, l'autre question, c'est la conversion du modèle productif européen vers des productions plus écologiques, avec une partie de relocalisation des productions en Europe, mais aussi avec des coopérations qui permettent de produire mieux et différemment chez nous en Europe pour couvrir nos besoins.
Alors justement, puisque vous parliez de relocalisation, on a vu que sur la question de la santé en dehors des équipements hospitaliers, l'Europe se trouvait assez démunie du point de vue des médicaments et du point de vue des matériaux nécessaires, puisque à force de délocaliser, tout se produit ailleurs. Il y a une course-poursuite là qui est menée pour trouver un vaccin, hein, un remède face au Covid-19. Sanofi a fait scandale en disant qu'en gros, elle vendrait au plus offrant. Hein. Comment on peut aller dans ce domaine-là aussi vers un modèle plus solidaire et comment on peut faire en sorte que la France, l'Europe, mais la France, ait les moyens de pouvoir répondre à une crise comme celle-là si elle sera reproduite dans l'avenir?
Alors effectivement, on est dans une situation singulièrement dans le domaine du médicament, une situation de dépendance inquiétante, parce qu'en gros, pour faire court, même si ce n'est pas exactement toute la réalité, mais la production de médicaments, la fabrication a été délocalisée en Asie par les groupes européens comme Sanofi, comme les groupes allemands. Ils ont délocalisé la fabrication de médicaments. Et puis, ils ont essayé de valoriser les brevets et en se faisant la guerre plutôt qu'en coopérant. Bon, je pense qu'il faut évidemment inverser cette situation. Il y a un événement très important qui vient de se passer et dans lequel, pour une fois, les pays de l'Union européenne ont joué un rôle plutôt positif. C'est l'Assemblée mondiale de la santé, c'est-à-dire l'Assemblée générale de l'OMS, qui s'est tenue à Genève.
On en a parlé la semaine dernière. Ah. Hein.
Ouais. Mais elle a affirmé, cette Assemblée générale, qu'il fallait faire des médicaments, des futurs vaccins, des traitements, des biens communs, des biens publics mondiaux, protégés justement des aléas du marché, et qui permettent que chaque pays ait le droit à être approvisionné, à avoir un accès universel. Ça ne sera possible que s'il y a une organisation de la solidarité européenne pour que tous les efforts de recherche, de financement en Europe soient communs et garantissent cette stratégie de biens publics mondiaux. Et ça ne peut être que les États qui prennent cette décision, parce qu'on voit bien que si on laisse faire les groupes comme Sanofi, eux, ils se moquent de ça, c'est les actionnaires qui décideront. Et comme tu le disais, ils vendront au plus offrant. Donc, si on veut garantir la déclaration de l'OMS, eh bien, l'Europe doit coordonner ses politiques publiques de médicaments et obliger les groupes européens, dont Sanofi, à mettre au pot de cet effort commun. Il y a un petit fonds qui a été décidé, de plusieurs centaines de millions d'euros. C'est un premier pas, un premier fonds européen, mais on est très en dessous de ce qu'il faudrait. Et je pense que faire appliquer la déclaration de l'Assemblée générale de l'OMS, c'est important. Moi, j'ai questionné le ministre des Affaires étrangères la semaine dernière en commission au Sénat, justement sur la déclaration de Sanofi, en lui disant la contradiction avec la déclaration de l'OMS que la France a signée. Et il m'a dit, mais moi je condamne la déclaration de Sanofi, j'appuie la déclaration OMS. Ça c'est bien, sauf qu'il faut s'en donner les moyens. Si on déclare ça, mais que de l'autre côté on laisse les clés de la maison à Sanofi, on n'y arrivera pas. Donc il faut reprendre la main sur cette affaire et il faut qu'il y ait une loi qui permette en France de commencer à reconstruire un pôle public du médicament qui nous donne la maîtrise des choix qui seront faits demain, en s'appuyant notamment sur les salariés qui, chez Sanofi et ailleurs, dénoncent cette situation depuis très longtemps. On pourrait donner des pouvoirs aussi nouveaux aux salariés de Sanofi pour intervenir sur ce type de choix.
Très bien. Pierre-Laurent, on arrive à la fin de notre chronique, notre émission. Comment on peut, aujourd'hui, cette Europe, voilà, on voit bien qu'elle est quand même remise en cause par les citoyens. En deux mots, comment on peut faire avancer les choses?
Je crois que le plus important, c'est de mettre le plus possible, à chaque fois qu'on peut, en relation les forces citoyennes, les forces syndicales, les forces démocratiques européennes qui peuvent travailler dans le même sens pour que nous soyons capables de peser à l'échelle européenne. Il y a beaucoup de forces qui se battent chacune dans leur pays, qui ne se battent pas assez ensemble. Le parti de la gauche européenne se donne cet objectif avec les partis qui en sont membres, mais aussi avec d'autres, comme le Parti du Travail en Belgique, comme le Parti communiste portugais. Bon, il y a beaucoup de forces qui peuvent travailler ensemble. Et moi, au sein du parti de la gauche européenne, je suis responsable du forum européen que nous avons construit et qui va se tenir en mois de novembre à Athènes. Nous allons entièrement le consacrer cette année à justement les moyens de lutte pour l'après-Covid. Et je pense qu'on a le devoir de penser que chacune des batailles qu'on mène en France, elle a son volet européen. Et donc, il faut essayer de travailler en permanence à faire se rapprocher ces forces-là. Parce que sinon, on a des forces qui, elles, en face de nous, sont très coalisées, même quand on ne le voit pas. Ne serait-ce que parce que les multinationales, elles, travaillent à l'échelle mondiale et européenne, et nous, nous sommes trop face seulement à nos gouvernements. Donc il faut mener évidemment ces luttes dans chacun de nos pays, mais les unifier au plan européen à chaque fois que c'est possible. La bataille de la santé et du médicament nous en offre une occasion, mais d'autres aussi, comme les batailles industrielles que nous menons, celles de Renault ou d'autres.
Bien, merci Pierre-Laurent pour cet éclairage.
Merci de votre invitation.
On se reverra peut-être justement à l'occasion du Forum européen, parce que je crois bien qu'on sûr. A besoin de faire mesurer à nos auditeurs et aux Français que L'Europe, bien sûr, elle ne répond pas à leurs attentes, mais qu'on ne peut pas faire autrement que d'avancer, et on voit bien avec la crise du coronavirus, hein, dans la coopération et la solidarité au plan européen. Donc encore merci, et puis merci à notre technicien Alassane, au studio. Bonne soirée à tous, rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour aborder cette fois la situation chaotique qui sévit en Amérique latine, et le coronavirus est venu rajouter par là-dessus une dose de drame là où il y en avait déjà pas mal, au Chili, au Brésil, etc. Et donc bonne soirée et continuez à vous protéger. Bonsoir. Vous écoutez.